Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bienvenue à Bénédicte Soumis sur les ondes de Radio Alliance Plus pour une émission d'Antiquissimo qui fait suite à celle proposée la semaine dernière sur Glanum et ses ressources. Donc nous sommes toujours sur le même site, mais nous changeons d'interlocutrice et je la salue. Bonjour Bénédicte.
Bonjour.
Alors, la dernière fois, j'avais donc interviewé, je vous avais rencontré dans l'atelier où nous avions fabriqué des bijoux, et c'est ce que nous entendrons dans la deuxième partie de l'émission. Mais j'avais à cœur, avant qu'on ne vous voie sur votre terrain de prédilection, de parler de vous et de votre titre sur le site de Glanum et au musée. Vous êtes ce qu'on appelle une médiatrice culturelle. Est-ce que c'est bien ça ?
Tout à fait, c'est tout à fait ça.
Alors, justement, parce que d'abord, on est toujours curieux de connaître le parcours de nos invités, savoir si l'Antiquité a toujours été leur potion magique ou bien si c'est une vocation tardive. Et puis aussi d'inciter les auditeurs, peut-être les plus jeunes d'entre nous, à se lancer dans ces métiers de la médiation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être une médiatrice culturelle ?
Alors, la médiation culturelle, c'est le fait de transmettre la culture, de transmettre l'histoire, de transmettre le patrimoine au plus grand nombre de publics. Donc, c'est vrai que sur Glanum, on va partir depuis les maternelles, on va monter jusqu'au lycée, et on développe maintenant aussi également la médiation, l'accès à la culture aussi pour les adultes et les publics, on va dire, éloignés, les personnes en situation potentiellement de handicap.
Oui, donc ça, c'est une belle idée. Donc, c'est le partage avec un grand P, hein, le partage de cette culture et de notre patrimoine. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait depuis fort longtemps avant de devenir médiatrice culturelle ou bien est-ce que vous aviez d'autres horizons auparavant ?
Auparavant, j'avais d'autres horizons. En fait, moi, au tout début, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Donc, j'ai fait une formation, j'ai des études d'histoire, histoire de l'art à l'Université d'Avignon. Après, j'ai fait un master des métiers du patrimoine où j'étais plutôt sur la valorisation, donc le fait d'écrire des textes, le fait de s'occuper de la restauration des monuments. Et puis, quand j'ai eu terminé mes études et que j'étais en recherche de poste, j'ai eu l'opportunité de rentrer à Glanum en faisant de la médiation. Donc, ça m'a permis de rajouter, on va dire, une corde à mon arc en plus, et ça m'a permis de développer autre chose, quoi, d'être au contact avec les publics, et vraiment le côté partage, qui est très présent aussi, était important pour moi.
Et donc, vous n'avez pas quitté votre région, vous aviez fait vos études à Avignon et vous n'êtes pas trop loin.
Oui, Avignon, Aix-en-Provence, et voilà, j'habite pas très loin de Glanum, effectivement. Donc oui, je suis restée ancrée.
Très bien. Et ce site, vous le connaissiez enfant ou bien vous l'avez découvert adulte ?
Non, alors quand j'étais petite, je l'avais visité. Donc j'ai des vagues souvenirs parce que j'étais quand même petite. Par contre, j'avais fait une saison d'accueil surveillance. C'est mon premier emploi, la première fois de ma vie où j'ai travaillé, c'était déjà à Glanum. Mais voilà, c'était sur de l'accueil surveillance. Donc j'étais sur le site, je regardais si tout se passait bien. J'avais pas vraiment le contact avec le public. Et c'est après, plusieurs années après, que du coup j'ai pu revenir via la médiation.
Et alors, quand vous étiez petite à l'école, donc bien avant d'entreprendre ces grandes études, et on voit que effectivement vous avez un bagage, comme on dit, impressionnant, vous étiez toujours intéressée par l'histoire.
Oui, très tôt, j'ai développé un intérêt par rapport à ça. J'ai lu pas mal de bouquins. Il y avait une autrice, Odile Wellers.
Oui.
Je sais pas si je dis comme il faut.
Oui, voilà. C'est très difficile
mais,
à prononcer.
Oui. Sur l'Antiquité. Voilà, pas facile, on est d'accord. Et je me souviens, oui, d'avoir lu ces livres quand j'étais petite, qui se passaient, il y avait le messager d'Athènes, il y avait déjà l'Antiquité qui était un petit peu présente. L'Antiquité aussi, l'Égypte, avec Christian Jacques, après, que j'ai lu. Et puis petit à petit, ça s'est développé sur d'autres périodes, jusqu'à m'amener à aimer mes cours d'histoire. J'avais des super profs aussi, j'ai eu Madame Ginoux, au collège à Château-Renard qui était top, qui m'a aussi bien aidée à m'accrocher à cette matière et ensuite à me diriger vers des études dans cette branche-là.
Alors, cette Odile dont vous parliez, je n'ose même pas moi aussi prononcer son nom de peur de l'estropier, c'est très dur à dire. On avait failli, parce que c'est une vieille dame, hein, elle habite Paris, elle est très âgée, mais elle est évidemment tout autant aussi passionnante qu'avant. Et moi aussi, j'avais dévoré ses livres. Ensuite, mes élèves, je leur ai demandé de lire ses livres
Ah
aussi. Et je l'avais invitée à un forum ici à Nîmes. Et puis, au dernier moment, alors c'était après le Covid, elle a estimé qu'elle était trop trop fatiguée pour faire la route, donc j'ai eu la grosse déception de ne pas la voir en
Ah
vrai. Mais c'est quelqu'un de fascinant et qui a pu aiguiller beaucoup de jeunes vers l'Antiquité, parce que c'est surtout sur l'Antiquité, hein, qu'elle a écrit.
Oui, c'est ça, hein. C'est vrai que voilà, des bonnes lectures, des bons souvenirs.
Et alors maintenant que vous êtes donc médiatrice culturelle à temps complet, je pense, hein, à Glanum, vous créez beaucoup d'ateliers, vous faites beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de votre journée type, donc intermédiaire entre beaucoup de gens, hein, les artistes, les œuvres, le patrimoine, votre hiérarchie, l'administration, le grand public? C'est-à-dire que vous êtes entre beaucoup de monde.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que nous, on est. Enfin, moi, je suis sur l'équipe donc de la médiation culturelle, mais je travaille donc oui en collaboration avec mes collègues de l'accueil surveillance. On a l'administration, comme vous l'avez cité. Donc, on se côtoie sur le site tous les, enfin, lors de nos journées. Et donc, nous, ce que, comme ça va, une journée type sur Glanum, ça va être le fait d'arriver sur le site, d'installer les ateliers, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de possibilités, on a beaucoup de propositions. Donc, on a des ateliers qui demandent pas mal de préparation parfois. Ensuite, on reçoit les classes et sur une journée type, on va avoir une classe sur la journée. Mettons que le matin, on va faire d'abord la visite et l'après-midi, l'atelier. Et ensuite, on switch. Si on a deux groupes, on va switcher à midi au niveau des thématiques. Voilà, et puis bah, divers ateliers variés, hein. Nous avons la peinture attique, la mosaïque, l'archéologie. Donc, on a vraiment de quoi faire.
Et donc là, vous êtes au service, entre guillemets, des musées nationaux. Hein. Vous n'êtes pas, parce qu'il y a des médiatrices culturelles qui sont sollicitées par une ville ou une région, mais vous, c'est au plan national.
Alors oui, moi c'est le Centre des monuments nationaux. Et en fait, c'est un métier qui est quand même, on va dire, un peu saisonnier quand même. Il y a des périodes dans l'année où il y a plus de demandes que d'autres. Donc ça m'amène à travailler sur un autre site du Centre des monuments nationaux, le Fort Saint-André à Villeneuve-les-Avignon.
Ah oui,
Ça me
d'accord.
permet de voyager un peu aussi à travers les époques, en fait. Je ne suis pas que sur l'Antiquité, je vais être aussi sur la période médiévale aussi. Mais sur le même principe, hein, c'est aussi de la médiation, le même type de journée, voilà. C'est juste les thèmes qui changent.
Et oui, et puis j'ai observé, pour avoir, on l'entendra dans la deuxième partie de l'émission, rencontrer votre public, dont j'ai fait partie du coup, que c'est très varié ce que vous proposez et c'est ça change aussi, hein. C'est pas toujours les mêmes ateliers.
Non, non, on essaye en fait. Autant voilà pour les scolaires, on va avoir une programmation type. C'est ce que dont je vous ai
Oui.
parlé, l'archéologie, la mosaïque, qui sont des thèmes qui sont importants pour le programme, que les professeurs aiment connaître et utiliser. Par contre, oui, pour les publics, on développe de plus en plus. On essaye de varier les activités. On essaye de chaque année de refaire une. Alors il y a des choses qui reviennent, mais on essaye toujours d'avoir des nouveautés chaque année. Et donc l'atelier bijoux auquel vous avez assisté, c'est une première.
Eh bien, ça fait une parfaite transition avec la deuxième partie de l'émission qui débutera après notre petite pause musicale. Et j'ajoute qu'avant cet atelier où nous nous sommes rendus en intérieur, vous aviez pris soin de nous présenter rapidement le site pour contextualiser ce que nous allions faire. Donc, il y avait une petite présentation en extérieur du site. Puis ensuite, nous sommes rentrés pour fabriquer ces fameux bijoux. C'est ce que nous allons entendre. Je vous remercie beaucoup, Bénédicte, et on va vous entendre sur le terrain maintenant. Au revoir.
Merci à vous.
Je peux plus rester ici, je dormirai, je sais pas. Bijoux, bijoux, le temps ça pourrit tout. Les cheveux dans le lavabo, les mégots écrasent n'importe où. Bijoux, te prends ton bain avec de drôles de chouchous. Bijoux, bijoux, y a des feux rouges partout. Puis au coin de la rue, l'armée du salut qui joue. À maman qui a plus de cheveux, à mes cols de chemise,
plus de balles.
À tes rendez-vous. Rappelez le gynéco, passez à la banque, prendre des sous. Trouvez quelqu'un d'autre, moi je mets les bouts.
Alors ça y est, nous sommes dans l'atelier, il y a un public varié, petits et grands, prêts à travailler. On va d'abord entendre notre médiatrice culturelle donner des explications et à la fin, l'avis du public, comme on dit.
Commencer avec une petite présentation sur l'évolution du bijou à travers le temps jusqu'à l'Antiquité. Et donc j'ai fait une recherche sur Internet, alors je m'excuse, hein, l'image s'est coupée à l'impression. Mais le fait d'avoir des bijoux, c'est quelque chose qui a très vite attiré l'être humain. Et on a retrouvé des traces de bijoux très anciennes. On monte à la préhistoire. À la préhistoire, où on va utiliser des coquillages. C'est ce qu'on a retrouvé le plus facilement lors de fouilles archéologiques. Et c'est des objets qu'on va trouver principalement dans des tombes. On retrouve le corps. Oui, je sais, c'est pas très... c'est pas très cool, mais tu sais, en archéologie, trouver des corps, c'est intéressant. Voilà. On apprend pas mal de choses en fouillant les tombes. On apprend sur les rituels, sur les façons de faire. Et puis, des fois aussi, on fait des analyses des os. On arrive à savoir les maladies qu'ils avaient. Donc, c'est intéressant quand même.
Ce qu'ils mangeaient.
Ce qu'ils mangeaient, exactement. Les dents aussi, la dentition. Donc, oui, c'est chouette, même si c'est bizarre. Donc, ici, on va avoir des coquillages qui vont être utilisés. Coquillages, mais on récupère également aussi, et ça, c'est un petit peu aussi particulier, ça va peut-être faire réagir. Comment ?
Les ossements.
Les ossements, exactement. Les dents, les animaux. Voilà, parce que là, il y a un côté aussi à la préhistoire, on chasse beaucoup.
Oui, mais.
Voilà, donc.
Elle connaît.
Voilà.
On a fait des grottes.
Ah, bien. Voilà, donc, oui, c'est vrai qu'il y a un côté peut-être montrer aussi sa puissance de chasseur en notant tout autour de lui ce qu'on a retrouvé. Donc voilà, est-ce qu'il y avait une vocation, est-ce que ces bijoux étaient portés qu'au moment du décès, ou est-ce qu'il y avait des cérémonies aussi qui étaient tout autour? Là, on est complètement dans l'hypothèse, parce que la préhistoire, on n'a pas gardé beaucoup d'éléments à ce sujet-là. Mais le côté donc chasse se retrouve, là on a retrouvé plusieurs dessins avec des animaux sculptés, également gravés. Donc il y a une recherche aussi un petit peu comme dans les grottes, en fait, quand on met sa main et qu'on souffle de la peinture tout autour. Là, ils vont chercher aussi, en plus des animaux, à faire aussi des gravures sur des petits objets ronds avec un trou. Donc on peut vraiment penser aussi à une perle qui se mettait autour du cou, qui permettait de décorer. Voilà, donc là, ça nous donne aussi, ça confirme bien le côté chasse de cette époque-là. Donc ça, c'est pour la préhistoire, et puis après, on arrive sur la protohistoire, donc la période qui se trouve avant vraiment le début de l'histoire. Là, c'est vraiment des termes un peu plus scientifiques, un petit peu plus poussés. Ce qui va changer avec la protohistoire, c'est le travail du bronze. Le bronze va apparaître à ce moment-là. C'est un alliage de plusieurs métaux, donc cuivre et étain, qui va être utilisé dans la vie quotidienne. On va commencer à créer des outils qui vont permettre de développer l'agriculture. Donc il y a ça qui va se mettre en place au fur et à mesure. Et puis surtout, on a des peuples qui vont se rendre compte que c'est beau, ça brille, c'est joli, et que ça peut servir justement aussi à faire des décorations, des bijoux. Et donc moi j'ai découvert, il n'y a pas très très longtemps, là aussi ça s'est coupé, j'étais à Athènes il y a une quinzaine de jours, donc j'en ai profité pour faire le tour des musées avec ma filleule. Et on a trouvé des bijoux qui datent de l'époque mycénienne. Donc les Mycéniens, c'est un peuple qui vivait en Grèce
avant l'Antiquité, donc on est vraiment dans la période donc, proto-historique. Ils ont énormément travaillé l'or. Et donc là, on a donc un collier, moi je le trouve très moderne. On dirait vraiment pas que c'est de cette époque-là. Avec des petites voilà, des ciselures dessus, des plaques mises les unes à côté des autres. On a les boucles d'oreilles aussi. Et ce que j'ai bien aimé ici, c'est qu'on a une pieuvre qui a été sculptée, qui a été fabriquée. C'est quand même assez... c'est beau quoi, de se dire qu'ils arrivaient à produire ces éléments-là. L'or était utilisé donc, pour décorer comme bijoux. À Mycène, ce qu'on a retrouvé, c'est ce masque en or, dit masque d'Agamemnon, parce qu'Agamemnon, c'est un personnage de la guerre de Troie. C'était le beau-frère de la belle Hélène. Hélène donc, qui a été emportée à Troie et qui a été du coup la cause du début de la guerre de Troie. Et donc, quand Heinrich Schliemann a retrouvé Mycène, il a retrouvé ce masque mortuaire. Donc là aussi, je suis désolée, on est encore là-bas, sur ce thème-là. Mais donc, on a retrouvé ce masque et il l'a attribué à Agamemnon, même si, voilà, bah, Agamemnon, on est plutôt sur un personnage mythologique. Mais voilà, ça reste quand même bien ancré. Et après avoir fouillé la ville de Mycène avec son épouse, il est allé justement sur le site supposé de la ville de Troie. Et ils ont retrouvé cette parure de bijoux, qui est très belle parce que c'est sur la tête en fait, c'était porté, c'est pas quelque chose de très commun. Et donc là, vous avez son épouse qui porte la tenue, enfin la tenue, la parure. Voilà, donc c'était quand même pas mal. Je pense que c'était, voilà, c'était des peuples qui étaient quand même aisés. Il y avait peut-être un autre rapport aussi à l'or. Aujourd'hui, ça nous paraît vraiment quelque chose d'extrêmement cher. Peut-être que pour eux, c'était un petit peu moins. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses hein, en or qui ont été retrouvées sur Mycène. Donc voilà, ça peut poser question là-dessus. À Athènes, il y a également un musée, c'est le musée Benaki, qui n'est pas très connu. C'est un musée, c'est un collectionneur, c'était monsieur Benaki qui avait fait plein de recherches, qui a récolté pas mal d'éléments. Donc beaucoup d'éléments de l'Antiquité, mais également des tenues. On a des costumes de toutes les régions de Grèce avec toutes leurs spécificités. Des intérieurs du 17e, 18e siècle qui sont reconstitués dans le musée. Et pour la période antique, il a fait une collection également de bijoux qui est assez conséquente. Donc là, c'est pareil, hein, en prévision de l'atelier, je me suis régalée. Là, je vous en montre qu'une, mais il y avait plein d'éléments et puis on peut vraiment faire la chronologie du bijou. Donc là, on est sur ici, les trois premiers rangs, ce sont des diadèmes, un petit peu dans l'esprit, donc on mettait là, puis ça pendait sur le front. Des colliers, et là, vous avez une ceinture. Une ceinture donc, qui faisait office de bijou. Cette ceinture, elle est appelée ceinture d'Hercule, parce que Hercule a fait 12 travaux. Et parmi ces travaux, il y en a eu un, c'était d'aller récupérer la ceinture de la reine des Amazones. Et donc, c'est un clin d'œil du coup à cet épisode-là. Et cette ceinture, quand on la porte, apporte aussi plein de bienfaits. Elle porte bonheur, elle protège. Il y a toute cette symbolique-là qui va se retrouver autour. Donc, on a quand même de beaux éléments au niveau des détails. Voilà, c'est peut-être un peu chargé, peut-être, par rapport à nous, ce qu'on connaît, mais c'est quand même de belles choses à voir. Donc ça, c'est pour la Grèce, ce que l'on vient de voir. Ça nous permet d'avoir un petit panel de ce qui se fait. Donc après l'âge du bronze, on a eu l'âge du fer, mais le fer n'a pas été utilisé pour tout ce qui est lié aux bijoux. Mais ça montre aussi quand même une évolution, là aussi... pour l'agriculture, ça a été quand même très bénéfique pour tout ce qui est voilà, aussi technique, bien précis. Et puis bah, après, bah, on a toute la période, on va dire, romaine, l'antiquité romaine qui va se développer. Et là, moi, je vous montre des portraits que je trouve magnifiques, j'aime beaucoup. C'est les portraits de Fayoum. Et alors là, je suis désolée, encore une fois, c'était des portraits composés sur les momies en Égypte. Voilà.
Composés sur le...
Ouais, sur la momie. Il y avait la momie et il prenait la peine de sculpter, de peindre sur du bois le portrait de la personne décédée et de le poser dessus. Ouais. Donc Fayoum, c'est une région d'Égypte. L'Égypte, donc il y a eu toute la période d'Égypte voilà, où on a connu le pharaon. Et puis il y a eu la période dite des Lagides, donc la période de la génération, enfin la généalogie, c'est de la famille de Cléopâtre. Là, on était sur une famille grecque qui avait pris le contrôle de l'Égypte. Donc il y a une influence gréco-romaine, on va dire, qui se met en place à ce moment-là. Et donc voilà, on va avoir ces portraits qui vont se mettre en place. Et moi, je les apprécie, enfin, je les aime bien parce que ils sont tellement... Moi, je les trouve vivants, on dirait qu'ils sont là, quoi. Et ils sont très intéressants parce que là, c'est pareil, on a pas mal d'informations sur les bijoux. Donc à nouveau, le diadème, les colliers. Et là, on a des boucles d'oreilles avec des petites pendeloques. Et ça va nous servir pour la suite, pour notre atelier. Ouais.
Donc on a retrouvé des portraits aussi intacts.
Ouais. Alors je pense qu'il y a eu des travaux de restauration quand même, mais oui, on a réussi. Et bien là, une énorme collection. Là, j'en ai pris que deux parce que voilà, il y avait vraiment les boucles un peu comme dans l'inspiration de ce qu'on va faire. Mais oui, on est sur quelque chose de très détaillé. Donc voilà, vraiment. Donc les Romains, on récupère la même matière de base. On est à nouveau sur du bronze, on est à nouveau aussi sur l'or aussi qui se développe aussi au fur et à mesure. Et ce qu'on intègre, mais qui était aussi connu chez les Grecs, c'est juste que je vous en ai pas parlé avant, c'est tout ce qui va être les pierres précieuses. Les pierres précieuses, bah, c'est quand même aujourd'hui, hein, je vois votre bague par exemple, c'est un bon exemple. La pierre précieuse, c'est quand même un élément clé d'un bijou, c'est toujours le petit plus, c'est toujours intéressant de l'avoir. Donc là, moi, je vous montre, pareil, là c'est à Mycène, donc on est chez les Grecs, plein de petites pierres qui ont été découvertes, qui permettent de se rendre compte de ce que l'on utilisait à l'époque. Donc par exemple ici,
c'est quoi ça ?
Améthyste.
Améthyste, ça marche. Donc l'améthyste, c'est la pierre du dieu Hermès. Donc voilà, c'est quelque chose qui est connu, qui est mentionné. Ici, on a la cornaline. On a également de l'agate aussi qui peut être utilisée de temps en temps. Donc là, c'est ce que j'ai ici dans le pot. Je vous fais passer, ce sera plus simple parce que sinon je vais tout inverser. Si on peut faire passer l'améthyste aussi de son côté. Tac, tac, tac. Une autre pierre qu'on utilise beaucoup. Bon, l'améthyste, ça, je n'ai jamais fait de la montre pas. Hop. Les pierres bleues. Voilà. Le lapis lazuli.
Ah, j'adore.
Oui, ça, c'est vraiment. Donc, lapis lazuli, c'est une pierre qui est très, très utilisée, très intéressante. Elle coûte très cher, donc c'est pas tout le monde qui peut le faire. Elle sert à plein de choses. Donc, elle sert pour les bijoux d'accord, surtout en Égypte. En Égypte, on a plein de petits scarabées qui sont sculptés dans cette pierre-là. Mais elle peut être également broyée pour faire de la peinture bleue sur les murs, sur les bâtiments, parce que nous, on a l'habitude des sites antiques pierre brute. Mais à l'époque, il y a de la couleur de partout. Et elle sert également pour le maquillage. Ouais, on peut broyer et faire un petit peu quelques petits éléments comme ça. Alors, là je ferai passer la boîte après, mais le quartz rose aussi commence un petit peu à être utilisé. Et là, on a le cristal de roche. Nous, à Glanum, on a retrouvé une magnifique bague que je vais vous montrer du coup avec...
Et dans quel contexte vous l'avez retrouvée ?
Pendant les fouilles, j'ai pas le détail vraiment du lieu pour vous dire... Alors, moi, je vous montre ici le portrait d'une dame qui a été trouvée à Pompéi. Donc, Pompéi, ville qui a disparu sous les cendres du Vésuve. Avec, on voit, elle porte ses boucles d'oreilles. Voilà, il y a son mari à côté d'elle, tout à fait. Moi, j'ai fait un zoom.
Ils sont dans ma salle à manger.
Ouais, voilà, c'est vrai, j'allais dire, gros.
C'est, voilà, tous les jours, je les salue.
D'accord, bien. Bientôt. Donc, voilà, j'ai pris cette image pour vraiment montrer une pompéienne. Et ce soir, sur Arte, c'est rigolo parce que ça tombe vraiment bien. Il y a un reportage sur une femme qui a été découverte, là aussi, je suis désolée, c'est son corps aussi, voilà, sur Pompéi. Elle a été retrouvée donc avec ses bijoux.
Maman, après on part, on fait quoi?
On va d'abord faire l'atelier avant de partir, non? Donc en fait, on a retrouvé le corps de cette femme. Et à côté d'elle, enfin autour d'elle, il y avait plein de bijoux, il y avait des pièces, des monnaies qui ont pu être nettoyées, qui ont pu être préservées. Et il y avait également ces boucles d'oreilles que vous avez juste là. Et donc ces boucles d'oreilles, je les ai prises ici parce que ça va un petit peu nous inspirer, nous, pour notre atelier, parce que je vais vous faire fabriquer des boucles d'oreilles. Donc vous avez ce modèle-là, et moi je vous montre, hop, aussi... Hop là. Donc ça, c'est quelqu'un qui les a fait, hein. C'est un artisan, on n'ira peut-être pas jusque aussi loin, mais on va essayer d'être dans cette optique là, donc avec une accroche comme ceci, des petites perles qu'on va accrocher qui vont permettre de faire la décoration, et donc ça permettra donc que vous repartiez avec votre paire de boucles d'oreilles d'inspiration romaine, donc dans cette optique là et aussi dans celle là est-ce que ça vous convient? C'est tout bon?
C'est bon?
C'est bon, ça va?
Tu fabriques pour maman?
Ouais.
Voilà.
Ça, c'est bon.
Maman, c'est trop dur.
Ah, c'est trop dur. Bon, alors, bon. Donc, là, je vais le laisser là, ça va nous servir de modèle. Oui. Est-ce que vous avez des questions pour cette partie théorique? J'avoue que ça fait beaucoup d'infos, mais voilà, ça permet d'avoir un petit peu des éléments clés. Ah si, je ne vous ai pas fait passer d'autres types de bijoux, très simples. Ça, c'est pareil, c'est un bracelet, on en a retrouvé un qui ressemblait aussi à Pompéi. C'est un serpent. Donc là, c'est pareil, on fait juste une bande et puis on l'enroule. Et donc, ça permet bracelet au bras, alors en bas ou en haut aussi, à la cheville également. Donc, c'est des petites choses qu'on a pu retrouver aussi dans cette optique-là. Voilà, des joncs, hein, oui, tout à fait. Et hop, et là, moi, j'ai une bague aussi qui a été refaite. Là, c'est une fabrication différente, mais il y a une bague qui a été refaite aussi dans cette idée-là. En fait, on prend, voilà, on simplifie, on fait des choses simples aussi.
C'est un petit fermoir qui se visse.
Ça, c'est pour le bracelet. Hein.
Pour le bracelet, oui. Donc, on fait passer ici, on va faire un nœud classique avec le fil et on va mettre les petites perles là, à écraser. Ça va permettre de bien bloquer pour que le bracelet tienne bien parce que le nœud, des fois, il a tendance à se défaire. Après, on enfile nos perles, on refait la même chose de l'autre côté et on est bon.
Donc, on va repartir avec de magnifiques boucles d'oreilles et un bracelet. Bon, là, on va avoir un succès monstre. Hein. Alors, vous êtes apparemment familière de ces ateliers. Qu'est-ce que vous avez fait précédemment ? En famille, toujours ?
Toujours en famille.
Oui.
Donc, on a fait l'atelier mosaïque, l'atelier de fabrication de poupées romaines, les écritures latines, grecques, romaines, la chasse aux papillons avec LPO.
D'accord.
Des attrape-rêves.
Oh là là, mais c'était la même année, ça, ou ça court sur plusieurs années ?
Oh, c'est plusieurs
ans.
Oui, sur plusieurs années. Surtout l'été, on fait les ateliers pendant les vacances scolaires. Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ?
Et là, c'est des ateliers mixtes pour tout le monde.
Oui, oui, on est sur cette optique-là.
Mais c'est toujours des ateliers mixtes.
D'accord.
Oui, mais aussi, on a écouté l'histoire.
Oui, les histoires. Oui.
Il y a aussi des ateliers de contes, c'est ça ?
Oui.
D'accord, très bien.
Ah oui, c'est vrai, il y a pas longtemps de ça. C'est un spectacle de marionnettes et le conte de vivre. Oui, tu as raison.
Et ben voilà, un beau moment bien occupé et il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous inciter à faire de même, à réserver votre atelier à Glanum. Au revoir.